franceinter.fr.
Et c'est une question de gros chiffres aujourd'hui à la une de la science. Combien de bactéries réellement dans notre corps humain ?
Notre corps humain, par exemple, est constitué d'environ 10 000 milliards de cellules. Mais on a en fait en nous 100 000 milliards de bactéries. Donc 10 fois plus de bactéries que de nos propres cellules.
Alors, on estime qu'un corps humain contient 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. C'est donner une idée de l'importance du rôle des bactéries dans notre santé.
Eh bien, Alice, notre corps contient des centaines de milliers de milliards de bactéries, 10 fois plus que nos cellules.
On a 100 fois plus de bactéries qu'on a de cellules.
Qui sont 100 fois plus de bactéries que de cellules humaines.
Et voilà, eh bien tout ça est archi faux selon des chercheurs israéliens et canadiens qui se sont penchés justement très sérieusement sur la question. Ils affirment donc qu'aujourd'hui, il y aurait quasiment autant de bactéries que de cellules dans notre corps. Bonjour Joël Doré.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste, directeur de recherche à l'INRA, chef de l'unité Métagénopolis. Qu'est-ce que c'est, Métagénopolis ?
Ah, c'est un démonstrateur pré-industriel financé dans le cadre des investissements d'avenir de l'État. Et c'est pour l'INRA une unité de service qui met à disposition les outils de la caractérisation du microbiote intestinal pour les cliniciens et pour les académiques.
Alors d'où venait cette estimation que l'on entendait partout, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre avec différents intervenants, et qui affirmait donc qu'il y avait 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines?
Bon, c'est un travail qui date de 1977 et qui vient d'un chercheur américain, Dwayne Savage, qui travaillait dans l'Illinois et qui avait fait ce calcul du nombre de bactéries présentes. Honnêtement, dans la partie la plus distale de l'intestin humain, là où les populations sont vraiment très denses. Et il avait calculé que pour à peu près 1 kg de contenu et environ 10 milliards de bactéries par gramme de contenu, ben on avait à peu près 100 000 milliards de bactéries dans ce compartiment intestinal très peuplé, par rapport à ce qui était connu à l'époque, 10 000 milliards de cellules humaine dans le corps humain. Et donc le ratio était de 1 pour 10.
Donc ça c'était un acquis, hein. Le chiffre n'avait pas changé du tout depuis l'époque.
Il était quand même bien pratique ce chiffre pour montrer l'importance du microbiote intestinal. Est-ce que la nouvelle estimation change quelque chose pour vous qui l'étudiez ?
Elle change très peu de choses. Et si ce n'est que c'est intéressant de toute façon dans le domaine de la science de remettre en question continuellement les observations. Et là, c'est vrai qu'on avait vécu sur ces calculs comme un petit peu un dogme au fil des années et c'était repris régulièrement. Ce qui est montré aujourd'hui par le travail de Fuchs et Milo, c'est que finalement, il y a probablement 2 fois moins de bactéries intestinales que ce qu'on pensait et probablement 5 fois plus de cellules dans le corps humain si on prend en compte des cellules qui sont dans la moelle osseuse et qui nourrissent les tissus sanguins en fait de l'homme. Et donc finalement ce raffinement de calcul conduit à peu de modifications de part et d'autre, mais par contre quelque chose qui nous dit l'homme est à peu près à part égale des cellules humaines et des bactéries.
Donc une cellule pour une bactérie, ça fait combien de bactéries dans le corps humain ?
Ah oui, alors on prend les calculettes.
Ça fait toujours pas loin de 100 000 milliards, en fait probablement 40 000 milliards à peu près.
Ouais, donc ça fait combien de grammes ? On est à 1 kilo à peu près ou un peu plus ?
À peu près 1 kilo de contenu, et le chiffre ne parle pas forcément beaucoup, mais dans 1 gramme de contenu intestinal ou de cellules humaines en fait, hein, on a 10 000 milliards. De bactéries, et ça correspond au nombre de cellules qu'on a chacun de nous à peu près dans notre cerveau, pour donner une image comparative.
Pour parler de notre symbiose avec les bactéries, le chiffre est quand même bien pratique, une pour une.
Le point important, c'est effectivement la symbiose en fait. L'homme, dès le moment de la naissance, découvre le monde microbien, et l'intestin, alors qu'il est stérile en fait au moment de la naissance, et un écosystème qui va être très rapidement et très densément colonisé par les micro-organismes que l'on rencontre, en grande partie de la maman à la naissance. Et cette symbiose-là, elle est tellement intime que le système immunitaire de l'homme reconnaît l'ensemble des cellules du corps humain comme faisant partie du soi, donc ne réagit pas contre ces cellules-là. Et de la même façon, il va apprendre à reconnaître au cours des premiers mois de la vie le microbiote intestinal de l'individu comme faisant partie du soi.
Comment se fait-il que
cette reconnaissance, en fait, il y a une pathologie.
Ouais, comment se fait-il que personne n'ait remis en cause ce chiffre depuis maintenant 40 ans ? C'est la difficulté justement de se prêter à ce type de calcul ?
Alors c'est une question difficile, je ne peux pas dire pourquoi, vraiment ça n'a pas été remis en question. Je pense que peut-être la raison est que on est sur un terrain où il faut à la fois une compétence et une expertise fine du côté microbiote et du côté humain, biologie cellulaire. Et peut-être que voilà, ça avait été visité par un microbiologiste dans les années 70. C'est visité aujourd'hui plutôt par des biologistes cellulaires, en fait. Mm-hmm. Et on voit bien que les révisions de part et d'autre, elles ne sont pas énormes en proportion, en fait. Et par contre, bon, ça conduit à cette idée de 1 pour 1 qui ne change pas grand-chose par rapport à la symbiose qu'on évoquait entre l'homme et ses bactéries et entre le fait que la symbiose, c'est avant tout l'interaction entre un microbiote qui est vraiment bénéfique pour l'homme, finalement, et l'ensemble des cellules et tissus de l'organisme.
Donc, ça veut dire qu'il va falloir revoir tous les manuels de microbiologie, là, Joël Doré. Ça va faire du boulot pour les éditeurs, hein, parce qu'il faut revoir les chiffres complètement.
Il va falloir que les scientifiques qui avaient l'habitude de s'asseoir sur cet argument révisent un petit peu leurs introductions de publication.
En quelle proportion évolue ce chiffre après un traitement antibiotique, par exemple ?
Alors, ça, c'est une question importante. En fait, ce qu'on sait du microbiote intestinal, c'est qu'il est... il est assez résistant à la modification, et c'est vrai pour le nombre total des bactéries présentes. Elles occupent en fait des niches écologiques et elles occupent un espace. Et quand on prend un antibiotique, ce que l'on a pu mesurer, c'est une petite diminution du total de bactéries présentes. Vraisemblablement une forte diminution des bactéries sensibles à l'antibiotique, mais simplement la place est réoccupée par des bactéries qui sont résistantes. Et donc globalement, le niveau de population change assez peu en cas d'un traitement antibiotique unique. Et on a même pu montrer dans nos travaux avec des collègues de l'Institut de recherche médicale de l'INSERM en France que il y a finalement une reconstruction de l'écosystème en termes de diversité dans un mois à peu près après un traitement antibiotique. Donc il y a ce qu'on appelle une résilience de l'écosystème. Donc une faible modification. Il y a des travaux américains sur des modèles animaux qui montrent que par contre, si on a des traitements antibiotiques chroniques répétés, comme on les connaît en fait chez l'homme, hein, parce que dans les pays modernes aujourd'hui, en moyenne, on a un cours d'antibiotiques par an jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans. Et donc, quand on est dans ces conditions de traitement chronique, il est possible que l'on perde un peu de diversité. Le niveau de population totale ne va pas changer ou assez peu, mais par contre la diversité d'espèces va pouvoir être un peu diminuée. Donc on a un appauvrissement finalement de la diversité des microbiotes intestinales.
Et est-ce que deux êtres humains peuvent avoir un nombre très différent de bactéries ?
Très différent non, parce que finalement c'est la chimie et la physique de l'espace qui est à disposition et les substrats qui sont présents pour les bactéries qui déterminent le nombre des micro-organismes qui vont occuper cet espace. Et donc ça varie très peu d'un individu à l'autre. Donc quand on a eu des données comparatives entre individus, on a des variations entre individus qui sont faibles. Plus faibles que ce que l'on voit dans le cas de traitements médicamenteux ou d'un traitement antibiotique, par exemple.
Justement, Joël Doré, avec ces traitements antibiotiques, qu'est-ce qu'on perd exactement quand vous parlez de cette population bactérienne ? Quels peuvent être les effets à moyen ou long terme, pour le coup, pour l'organisme ?
Le paramètre principal, c'est une perte de diversité d'espèces dans la dominance du microbiote. Et on a associé une même perte de diversité du microbiote avec les grandes maladies de société moderne. En fait, ces maladies qui sont non transmissibles, qui ne sont pas liées à une bactérie pathogène, par exemple, mais qui sont très très importantes dans nos sociétés. C'est le cas des maladies métaboliques, comme l'obésité, le diabète, inflammatoires, comme la maladie de Crohn, la rectocolite, par exemple. Et on a même des suspicions sur le fait que ce soit vrai aussi dans le cas de maladies neuropsychiatriques ou neurodégénératives.
À suivre donc, hein. Il y a beaucoup de choses à explorer évidemment dans ce domaine. Voilà donc facteur 1 pour 1, on va dire, entre cellules et bactéries.
On essaye de retenir 39 000 milliards.
Voilà, allez. C'est ce qu'il faut retenir, c'est un chiffre important et qui change la donne maintenant. Merci beaucoup Joël Doré, vous êtes microbiologiste et directeur de recherche à l'INRA.
À
merci
demain,
à vous.
Mathieu.
Merci Axel, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, eh bien c'est une première mondiale, elle est française. Une ablation du sein a été réalisée à l'aide d'un robot par l'Institut Gustave Roussy, et ce sans laisser de cicatrices sur le mamelon ou l'aréole. Cette opération permet en effet de pratiquer une incision très fine sous l'aisselle pour retirer la glande mammaire, puis d'installer simultanément la prothèse. Une alternative plus esthétique et moins traumatisante pour les patientes qui peuvent souffrir d'une altération de leur image suite à une opération classique. Les ondes gravitationnelles ont-elles enfin été découvertes? Une nouvelle rumeur sur leur captation par le détecteur LIGO agite la toile à la suite d'un tweet enthousiaste du cosmologiste américain Lawrence Krauss. Si l'homme dit vrai, cette découverte des traces visibles des plus anciennes du Big Bang viendrait consolider la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein et ouvrirait une nouvelle fenêtre sur l'univers. Pour le moment, les données récoltées n'ont pas encore été officiellement analysées. Prudence donc avant de crier victoire et de s'emballer sur la toile. Et puis l'autisme se cacherait dans un pli du cerveau. Des chercheurs du CNRS ont identifié un repli moins profond au niveau de l'aire cérébrale de Broca, une région impliquée dans le langage et la communication chez les personnes atteintes d'autisme. Ils ont mesuré par IRM la profondeur des sillons du cortex cérébral de 102 enfants âgés de 2 à 10 ans. Cette découverte suscite bien des espoirs, l'anomalie pouvant être détectée par IRM dès l'âge de 2 ans. Le diagnostic et la prise en charge précoce des patients autistes en seraient ainsi facilités.